les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Curieuse des ondes et amoureuse de la radio, bonjour, vous écoutez Les Ondes Buissonnières sur Radio Saint-Fée, une émission consacrée à vous faire découvrir des univers sonores, des univers à travers le son. Aujourd'hui, on va écouter le deuxième épisode de la série Ici le Monde, qui est proposée par Caroline Fontana, documentariste, ethnologue, réalisatrice. Cette série Ici le Monde s'intéresse à l'accueil de réfugiés sur le territoire, à celles et ceux qui accueillent, et aussi évidemment à celles et ceux qui arrivent, plus précisément des familles yézidis qui viennent d'Irak. Ce deuxième épisode s'appelle « La maison de l'enfance ». En juin 2021, Sultana et sa cousine Dalal sont venues en visite chez Mireille, qui est bénévole au réseau d'Iwa d'accueil des réfugiés. Le réseau d'Iwa d'accueil des réfugiés accompagne Sultana depuis plusieurs années. Dans cet épisode donc, Sultana et Hussein vont à la rencontre de leurs parents, dont les récits se croisent avec celui d'une troisième personne, Shahab, cultivateur dans leur pays. Ils évoquent le rapport à la terre, aux animaux, l'organisation des liens familiaux et communautaires, les paysages également, et puis la maison de leur enfance en Irak. On écoute donc tout de suite ce deuxième épisode d'Ici le Monde, la maison de l'enfance.
Ici le monde. Deuxième épisode. La maison de l'enfance.
Ça va, ta journée de travail s'est bien passée?
Bon, c'est fatiguant, la personne des fois. On s'ennuie. Faut que tu m'appelles, faut que je vienne faire mon chien.
Bon, bien.
Ça va bien?
Il fait chaud.
Il fait chaud. Allez, venez, on rentre à la maison, on va boire un coup.
Tiens, Berga, c'est Tana, tu prends les verres, s'il te plaît?
Oui.
Bon alors, du coup, tu as vu le mari de Marie-Jo hier?
Oui, c'était par rapport à un titre de voyage.
Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit sur le titre de voyage?
Bah, il m'a dit si tu as des choses à faire, il faut le faire avant que le président change.
Oui.
Si jamais il y aura Marie-Laure, un truc comme ça, non? Marie Le Pen.
Oui, Marine Le Pen.
Ça va être trop compliqué à faire à toutes les papiers.
Il t'a dit ça?
Ouais. Et après, il y a Cindy qui me disait, vu que t'es arrivé en France, t'étais pas majeur.
Oui.
Du coup, ta carte de séjour, c'est un réfugié. Genre, c'est la... Comment je peux dire ça? Du coup, je suis réfugié.
De toute
façon, comme mes parents, asile ou un truc comme ça, elle me l'a dit.
Mais c'est écrit, si tu... Sors là ta carte de séjour, tu verras, c'est écrit. C'est derrière, là. Réfugié. Il y a écrit réfugié.
Oui.
Réfugié irakienne. Toi, tu es pareil.
Mes parents, je crois, c'est pas pareil.
Mais si, c'est pareil. Ce qui est différent pour des personnes qui viennent, qui ont une carte de ce jour et qui sont venues pour des raisons économiques. Donc là, il n'y a pas écrit réfugié, tu vois. Mais vous n'êtes pas venu pour des motifs. Vous n'êtes pas venu ici pour gagner de l'argent, pour l'Eldorado. Vous êtes venu parce que vous étiez en danger dans votre pays. C'est pas pareil. Donc, il y a une protection internationale qui s'est mise en place et c'est ce terme-là de réfugié qui stipule ça, qui dit que vous êtes protégé.
Ok.
Bon, sinon, vous êtes contentes de vos vies, les filles?
Bon, moi, pour l'instant, c'est tout mélangé.
C'est tout mélangé?
Moi, c'est tout mélangé dans ta tête.
Oui, par rapport à tout ça. Moi, ce que je trouve génial, quand je vois, quand je passe dans la rue, là, dans le salon, je vois Jean-Luc qui te connaît, Cyril qui te connaît. Tout le monde te connaît dans le quartier. Et là, Sultana, elle est connue comme le loup blanc. Et tout le monde, en plus, te parle, mais avec... Enfin, voilà, on voit que les gens t'aiment bien. Toi, tu parles avec eux tranquillement. Enfin, voilà, t'as une bonne relation avec tout ce monde-là. C'est génial de voir ça.
Ben là, je connais beaucoup de monde, du coup.
Oui, je le disais juste avant-hier. Je me disais que tu connais tout le monde d'Albi presque.
Ouais, plus que moi.
Après, je charge de partout. Je suis là, oui, là dans la journée. Oui.
Mais c'est balade.
Plus tu vois les gens intelligents vers toi, plus tu avances à aller vers eux.
Et oui.
Moi, je suis comme ça. Mais après, Jean-Luc, avec sa femme, il était marié une fois. Je pensais qu'il était marié deux fois, mais c'est lui qui m'a fait ça. Il m'a fait croire qu'il était marié deux fois. Ah, et j'ai dit à Marie-Je dis ça, mais ça n'existe pas en France.
Et non, la polygamie.
Mais c'est lui qui m'a fait croire qu'il était marié deux fois. C'est lui qui m'a dit ça.
Parce qu'en Irak, il y a beaucoup d'hommes qui ont deux femmes.
Même quatre fois, même plus.
En même temps, donc. Deux femmes en
chez
même temps.
Chez les musulmans, c'est quatre fois. Et chez nous, c'est...
Mon grand-père, il était marié quatre fois. Trois fois.
Non, mais trois fois l'une après l'autre ou trois fois
attends,
en
je lui explique un kurde, comme ça, il va comprendre. Go là, non. Go, c'est déjà la Zaoudiouna. Go, il cache pas la chasse, vous prenez du dergue, il y a d'où.
Ya, tu vois.
Mon grand-père, il était marié trois fois.
Ouais.
Et il voulait se marier pour la quatrième fois. Et du coup, et tu sais, chez nous, il ne faut pas mettre... avant, c'était interdit de mettre des habits bleus. Genre,
oui, le bleu, c'est une couleur...
Même jusqu'à maintenant, c'est...
Il y a des gens qui le mettent pas.
C'est explique mais... pourquoi c'est interdit.
Je ne sais même pas. Ça et la salade, chez nous, c'est interdit de manger.
C'est la religion qui dit
oui.
ça.
Oui, il disait que c'est...
On peut pas mettre de bleu sur
c'est
soi.
C'est la couleur des musulmans, c'est les arabes et Daïch qui mettent ça.
Même les avant Daïch, c'était comme ça. Et la salade aussi, il faut pas... Nissan, il a jamais mangé la salade de sa vie. Mais non, moi je m'en fous, je mange tout.
Et alors tu disais ton grand-père ?
Mon grand-père, il voulait se marier pour la quatrième fois. Et il était fiancé avec une dame.
Oui.
Et du coup, il avait rêvé de sa fiancée.
Oui.
Il avait un t-shirt en jean bleu.
Oui.
C'était juste un rêve, hein ?
Oui, oui.
Mais du coup, par rapport à ça, il s'est pas marié avec cette dame.
Parce qu'il a rêvé qu'elle avait un habit bleu.
Oui, voilà. Ah, je te jure, c'est mon père qui disait ça.
Oui,
il était marié trois fois, mais ses femmes sont décédées. Enfin, les trois.
Oh, ben dis donc.
Mais même lui, il est décédé. Enfin, c'est une sainte, des fois, il nous parle de tout ça. Moi, ça me fait du bien de savoir comment c'était avant. Il y avait quoi, si ils étaient gentils, s'il y avait des histoires. Bon, en tout cas, il y avait des histoires, si.
Et ça fait du bien d'où tu viens, oui. C'est ça, hein. Ouais.
En 2014, la guerre, tout ça, j'ai vu. Mais des fois, je leur demande de reparler sur des choses qui sont passées depuis longtemps, des trucs comme ça. Enfin, mon père, il a fait beaucoup de choses dans sa vie.
Oui.
Comme il y avait Saddam Hussein, tout ça, tu sais.
Oui, oui.
Et du coup, moi, j'ai envie de tout savoir comment c'était.
Ah.
Parce que mon père, quand après, il se partait à chaque fois, il retournait pas à la maison pendant un an, deux ans, trois ans. Comme il y avait Saddam Hussein, tu sais.
Oui, je sais.
Il y avait la guerre entre Irak et Koweït.
Et Koweït, oui.
Voilà. Mon père, il était gendarme, un truc comme ça. Avec les polices, des trucs comme ça. Mon père, il était en Koweït pendant longtemps.
D'accord.
Et moi, ça me fait du bien de savoir tout ça. J'aime bien de quand il se parle, d'écouter comme ça.
Et oui, c'est bien savoir un peu de l'avenir.
Ça va être bizarre un jour de tout raconter à nos enfants. Mais bon.
Le jour de cette rencontre chez Mireille, en juin 2022, Sultana a 20 ans. À mesure que son avenir se construit ici, son besoin de connaître son histoire passée est de plus en plus présent. Je lui demande de me présenter ses parents pour les questionner moi aussi. Elle m'emmène chez eux quelques temps plus tard et assure la traduction de nos échanges. J'interroge aussi Hussein et son oncle Shahab sur leur enfance et les lieux où ils ont grandi. Dans cette même région du Sinjar.
Sa maison, mon père. Tout tombé. T'es mal à régie?
Qui c'est qui a fait ces images-là? Qui c'est qui a fait
ce qu'elle a fait?
C'est
les gens qui ils ont là-bas, ils l'ont filmé, ils l'ont envoyé à ses soeurs et sa soeur lui a envoyé à elle.
Ça aussi, mes hommes, mon père. Tout brûlé, tout tombé.
Mais j'ai mal à manger, je suis contente.
En Sinjar, ils ont brûlé toutes les maisons. Si tu retournes, ça va durer des années pour refaire comme avant. En tout cas, c'est très compliqué. Ça va être impossible de tout refaire comme avant.
Demande-leur qu'est-ce qu'ils connaissaient de la France avant de venir.
Rien.
خود دولت آوا آوا بگو دلی بیش. بله فنیا. خودیم زمان زنی.
Elle te fait des phrases mais les sons mais tu trouves même pas des mots pour dire en français.
Essaye.
Elles disent nous la religion les aidait on était des pauvres gens. Elle dit on faisait du travail avec les moutons avec les jardins tout ça et on savait pas qu'on a vécu la guerre en 2014 après on a quitté et on savait même pas les pays enfin on les connaissait pas. Nous, quand on était en Irak, je me souviens, il y a des gens qui venaient en Allemagne, ils ne disaient pas on va aller en Allemagne, ils disaient on va aller à Kharj. C'est tout ensemble les pays européens. Ils ne disaient pas on va aller en France, on va aller en Allemagne ou en Italie. Ils ne disaient pas ça.
Kharj, Europa. Kharj.
Et pour mon papa, ça allait. Même dès le début, il était trop content de venir en France. Enfin, en Irak, ils disaient on va finir de tout ça, il y a de la pauvreté, il y a beaucoup de choses. Mais pour ma mère, c'était très, très, très compliqué. C'était très compliqué de quitter ces deux filles là-bas. Surtout ma grande sœur, elle avait des enfants. Et de recommencer une autre vie sans ces filles. Et en France, il y a beaucoup de choses qui sont différentes là-bas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a rien qui ressemble en Irak. Il y a la langue, il y a les règles, il y a la loi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pareilles. Et du coup, pour elle, c'est très compliqué d'accepter le changement de vie, d'avoir une maison qu'elle n'a jamais vue. Il y a beaucoup de choses. Il y a tout ça qui était en jeu et du coup, ça lui pesait. Et c'était dur.
Quel est ton l'atmosphère. J'ai vu que tu m'as foutu en l'air. Étonnant, tu m'as dit au revoir, mais tu restes mon élu, mon espoir. Étonnant, tu m'as dit au revoir, mais tu restes mon élu, mon espoir.
Mes parents, ils faisaient de l'agriculture quand je suis né. Je suis né dans la nature. Et je pense que j'ai beaucoup de choses naturelles en moi depuis que je suis tout petit et jusqu'à aujourd'hui.
Je pars un peu loin pour l'agriculture. J'ai planté beaucoup de légumes pour la vendre. Et Hassan, dans mes ventres.
Et je toujours travaille chez moi jusqu'à Daesh Venu.
Et vous cultiviez les mêmes légumes qu'ici?
Oui. Je cultivais de aubergines, tomates, pastèques, melon, tous les légumes. De blé, de orge aussi.
D'accord. Les Yézidis, c'est beaucoup des cultivateurs?
Oui, tous les Yézidis jusqu'à maintenant, ils cultivateurs. Oui.
C'est très bien, maman, tu parles super bien français.
J'espère.
Si tu parles très bien, c'est.
Non,
c'est bien. Impressionnant. C'est impressionnant. Dans un village qui s'appelle Gobal, il y a 14 000 habitants. Les périodes de l'école, je faisais que les études. Et l'été, en fait, je travaillais avec mes parents dans les champs. On avait 5-6 moutons, je gardais les moutons quand j'étais jeune. Jusqu'à mes 10 ans, jusqu'à mes 14 ans, 4 ans. Et on est tous passés par là, je pense, tous mes frères et sœurs, on est passés par là. Quand on était petits, on gardait les moutons. Et quand on arrivait à travailler dans les champs, du coup, on a amélioré, on était dans un autre niveau. On était content, on a dépassé un niveau. Et moi, j'ai pas pu dépasser ce niveau-là parce que on a vécu la guerre et on a quitté tout, on a tout laissé. Mais moi, dans mon enfance, où j'ai pas fait beaucoup de jeux d'enfants, quand même, on avait une enfance compliquée. Déjà, on sortait pas trop. Mes parents, ils voulaient vraiment qu'on étudie. Pour eux, c'était les études, c'était la meilleure chose pour s'en sortir. C'était un peu compliqué. Tout le monde était pauvre. Il n'y avait pas vraiment des gens riches. Du coup, tout le monde, il pouvait juste vivre. Et du coup, il y avait des gens ils décidaient que ces enfants qui travaillent pour avoir une vie un peu meilleure. C'est pas le cas de mes parents. Ils sont tout faits pour qu'on essaye de faire des études. Et moi, je suis le plus jeune dans la famille. Du coup, je me souviens de beaucoup de choses avec mes parents. Je voyais... Je voyais que ma mère, il toquait chez les voisins pour demander 10 euros, 15 euros pour envoyer à mes frères et sœurs pour continuer ses études. Et du coup, aussi, je voyais quand mon grand frère ou mes sœurs, ils appellent ma mère, que ma mère, il montait, qui disait qu'on a tout. Et moi, je voyais qu'on n'avait pas tout. Et un jour, j'ai dit à ma mère, pourquoi tu mens? Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Et ce qui m'a remarqué vraiment, il m'a dit, mais mon fils, est-ce que si je le dis qu'on n'a pas tout, tu penses que ça le fera de bien?
Comme ma mère, elle est arrivée dans le village, elle expliquait pour nous, elle fait grand terrain pour elle, elle est plus d'un hectare. Elle construit grand la maison, elle est 4 chambres. Ouais. Voilà, et le grand salon, elle est à côté, on fait une cuisine, les salles de bain, tout ça. Elle est à côté, on fait une autre. Parce que chez nous, les cuisines, elle n'est pas dans la grande la maison. L'été, on monte, on dormit sur la maison en haut. Et après, il y en a, il a dit, non, nous allons faire les 6 mâts dessous. Et comme nous, il est la nuit, il est debout la nuit, nous, il monte pour dormir. Les 6 mâts, il est chaud. Et ma mère, tout le temps, on prendra l'eau en bas jusqu'en haut pour monter, pour jeter, il est bien frais, quoi. Comme nous, il est faire légumes, les moulons et les pastèques, tout, il est parti en haut, parti tout là-haut, parce que le matin, avant, les petits déjeuners, juste, on mange les pastèques. Et le matin, tôt comme tu réveillais, les pastèques, il est frais. Voilà. Ouais. Pour manger.
Vous étiez combien de frères et sœurs?
Nous, les 3 sœurs et les 6 frères. Comme ma mère, elle est décidée, et chaque personne, et comme il est marié, il est sorti. Ma grand frère, il est fait à côté, à l'est. Le notre frère a fait à sud, à côté, et les autres juste à sud et un petit peu l'ouest à côté. Et moi, je fais le nord, devant la maison, je construis. Les frères, ils habitent en Irak, ils sont presque 50 mètres, ils sont plus loin chez nous. Là, c'est ça, oui. Voilà. C'est pas comme en France, beaucoup en France. Beaucoup de villages ou villes, par exemple, les voisins pas connaissent les autres. Nous, il est dans la, on dit, c'est pas un village, je connais tout. Et lui, tout le monde m'a connu. Et en plus la moitié, il vient chez moi, il mange, tout ça. C'est, dans la famille, il est marié, tout le monde, il vient. Et comme on est mort, tout le monde, il vient. Nous, il est parti chez tout le monde. Tout le monde, nous, il les connaît ensemble. Nous, il les connaît les femmes, les enfants, les gens vieux, les jeunes, tout. Et comme nous, il est perdu en personne, il est fait mal, parce que tu connais, quoi.
Oui, bien sûr. Ma mère, des fois, elle me dit, comme j'avais ton âge, je faisais tout dans la vie. Et oui. Apparemment, elle était la préférée de son papa. Il aimait beaucoup son papa. Elle a dit, moi j'avais 11 ans, 14 ans, j'ai commencé à aller m'occuper des moutons, de faire des choses. Tu sais, chez nous, avec la terre, tu mouilles la terre avec d'autres choses pour construire des maisons.
Bien sûr.
Et elle faisait ça aussi.
Oui.
Elle a aidé à son papa pour faire leur maison. Elle a eu beaucoup de mal quand son papa est décédé. Je me souviens. On était en train de faire notre maison en Irak. Mon père, il avait fait une maison, mais genre immense. Il avait pensé à tous ses enfants. À Razi, s'il se marie, par rapport à sa femme, à Tassina, tout le monde. Il y avait 4 chambres, il y avait une salle à manger, il y avait une cuisine, 2 salles de bain, 2 toilettes. Il y avait, genre, c'était trop magnifique. Mais du coup, on n'a pas pu finir, on a quitté.
Oui.
Et la chambre a été tombée, c'était la chambre à Razi. Parce que Razi, on lui avait donné par rapport à ses études. Tout est tombé là.
Et oui.
Puis il m'avait montré, il y avait l'enclos pour les moutons aussi.
Oh, il m'avait expliqué, il avait tout fait. Là où il y avait les moutons, genre, t'en rêvais d'avoir pour dormir là-dedans. Mmh. C'était tout propre, c'était tout nickel. Mon père, il pensait à l'hiver, à l'été, à leur protéger. Mmh. Comme si c'était ses enfants, les moutons. Il les adorait. Et nous, ouais. Si on n'aurait pas dû quitter, on aurait habité là-dedans maintenant. Je te jure.
Avec cette idée d'une maison où tout le monde vit ensemble, toute la famille rassemblée.
Ouais. Moi, des fois, ça me manque franchement d'aller là-bas.
Ouais.
T'as des nuits où tu penses à beaucoup de choses et d'un coup, ça te revient tout dans la tête. Là où tu dormais, c'est déjà par rapport à dormir, c'est beaucoup différent parce que là, t'as des lits, vous êtes séparés. En Irak, t'étais collés. Là, il y avait Nissan, là, il y avait trois matelas, il y avait moi, Maïr, Turquie et Nada, vu que mon papa n'était pas là. Du coup, on dormait tous ensemble.
Et,
Et le lendemain, genre, t'avais pas de soleil parce que vu qu'on a, on avait la maison juste devant, et c'était trop beau de dormir. Genre, le temps était. Il y avait un peu le vent, mais pas beaucoup. Et c'était trop bien pour dormir. Et des fois, des choses comme ça, ça te manque.
Et bien sûr.
Nous, moi, j'avais des amis, on faisait des jeux. Des fois, on était 20 à jouer. Et là, j'ai oublié tous les jeux. C'est impossible de savoir jouer. Non. Tu sais, il y avait un jeu, tu mettais un caillou par terre et tu faisais avec tes pieds. Là, c'est impossible de me rappeler.
De jouer avec le pied et le caillou?
Ouais.
Comme une marraine un peu,
il fallait sauter. Après, tu faisais des lignes, tu faisais quatre lignes, je me souviens le jeu, mais je ne sais pas comment on jouait. Et tu avais un autre, tu avais 10 cailloux ensemble, et tu faisais un ballon avec tes chaussettes. Et tu fermais les yeux, et tu balançais le ballon avec les chaussettes. Et du coup, dès que tu mets le ballon que tu as fait avec les chaussettes sur tous les cailloux, si les cailloux ils tombent, là, les enfants qui vont jouer avec toi, ils vont tous courir. Autour de toi. Et là, du coup, tu vas courir après tout le monde pour mettre le ballon sur son dos.
Ah.
Et tout ça, j'ai oublié de jouer avec ça. Enfin, des fois, ça te donne envie de jouer. Et après, t'avais les petits ballons, tu sais, où tu avais tes doigts, là. Des trucs comme ça. Les petites. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'aime bien jouer aussi à ça. J'étais très forte en plus. Tu sais, t'as des petits trucs en verre, là.
En verre.
Ouais.
Des billes.
Je sais pas comment.
Des ronds. C'est rond.
Ouais, c'est
oui, c'est des billes.
Et moi, comme je faisais ça.
Eh oui, tu fais billes.
Là, j'ai du mal à faire.
Mais tu vois, nous, quand on était enfants, moi, quand j'étais enfant avec mes frères, j'avais deux frères, bon, je jouais aux billes.
Ouais.
Mais tu vois, c'était l'époque de mon enfance à moi. Tu imagines le décalage, c'est fou, hein.
Bonjour.
Ça va?
Bonjour Souleymane.
Bonjour.
On peut rentrer?
Oui.
Souleymane est père de 8 enfants et vit dans le centre-ville de Die.
Alors,
il travaille de parcelles dans un jardin partagé aux abords de la ville.
Allez.
Il fait lui-même ses semis et nous reçoit ce jour-là dans la serre.
Il n'y a pas personne les semer dans la serre.
Aubergine blanche irakienne.
Ouais.
Après concombre irakien.
Ça?
Oui.
Et ça?
Oui. Après gombo irakien.
Ouais.
Après courgette français. Après aubergine noire français.
Ouais.
Après concombre irakien. Après tomate français, corps de bœuf. Gros tomate.
Ouais, corps de bœuf. Ouais.
Après poivre français.
Ouais.
Poivre irakien.
Et comment?
Ça pique ou pas ça pique?
tu les reconnais? Tu sais que ça c'est irakien?
Oui.
Ah oui, mais.
Oui, moi je connais.
Toi tu connais, ouais. Ben, moi je vois
après,
pas.
Après gombo, après poivre aussi, ou gombo aussi.
Et ça?
Oui, aubergine, ou pastèque aussi. Ou...
Ça pousse?
Ouais,
c'est bien, ça pousse.
Moi je semais, l'année dernière je semais dans la serre là, 5 mars.
Ouais. Et cette année?
Et cette année, 4 avril.
Et dis-moi, Souleyman, si tu étais en Irak, si toi tu étais en Irak,
ouais.
Tout ça, ça irait déjà dans la terre ou dans une serre en Irak?
Les deux.
Les deux aussi?
Ouais.
Ah oui, les deux aussi.
En Irak, il est chaud, pas comme ça.
Mais
la terre aussi.
Au mois d'avril, il fait chaud déjà un peu.
Oui, très chaud.
À Sinjar aussi?
Oh, Sinjar, non.
Non, il y a des montagnes.
Sinjar, les montagnes, ouais. Comme notre foi, ici il neige comme ça.
Oui, oui, oui.
Mais ici il neige.
Il peut, ouais, ça peut.
C'est une montagne, comme Drôme. C'est comme Drôme.
Ouais, ouais.
Sur les bonnes ondes de Radio Saint-Fé dans les ondes buissonnières, vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série Ici le Monde, la maison de l'enfance, signée Caroline Fontana. Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de la radio www.radiosaintfé.com.
Les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.